Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Peu de choses pour que ça se déchaîne dans le studio 41 de RFI, à cet optimisme légendaire des supporters français. Les Bleus sont donc toujours champions du monde, c'est incontestable. Le seront-ils encore le 18 décembre prochain, à l'issue de la finale de la prochaine Coupe du Monde? Pourquoi pas? Mais l'année 2022 qu'ils nous proposent jusqu'ici n'incite guère à y croire, c'est même tout le contraire, après ce nouveau revers de 0 au Danemark. Hier, l'équipe de France s'est... Une victoire sur les 6 derniers matchs, 3 défaites déjà depuis janvier en compétition, au record des années sombres, 66, 81, 2008 et surtout 2010, les fantômes ressurgissent. 15 blessés certes, mais aussi un climat délétère autour d'eux, ça sent l'anus au rébilis, à plein groin. Et nous dit-on, il ne faudrait pas s'inquiéter, Eduardo Camavinga.
On n'a pas tout bien fait, après voilà, bah c'est le niveau, faire des mauvais matchs ça arrive, on a énormément de qualité dans cette équipe, on peut passer du tout au tout, donc faut pas s'inquiéter.
Bon, le truc en fait, c'est que le gars qui nous dit ça, c'est Camavinga, et que vu sa prestation d'hier soir, on n'est pas obligé de le croire, d'autant qu'à la Coupe du Monde, il n'y sera sans doute pas, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Sévrac? Je vous vois me regarder, c'est inquiétant quand même un peu, non?
Ah, il y a des motifs d'inquiétude, Olivier, ça c'est sûr, mais l'équipe de France a une chance sur 32 de gagner le Mondial, et ça c'est mathématique.
Bah c'est bien plus qu'au loto, j'ai joué ce soir, bah je vais encore perdre,
voilà. Alors que la France... Hervé vous dira, il va vous donner le vainqueur, il va commencer par il y
aura, on va lui demander. Après l'équipe de France en déconfiture ou presque, l'Afrique conquérante est pleine d'espoir. Là, il est d'accord, forcément, Hervé. Nous reviendrons demain ou mercredi sur les performances du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana. Ce lundi, c'est le Sénégal et le Maroc qui nous intéressent. Ça tombe bien, ils ont été plutôt bons ces derniers jours et ce week-end, les Sénégalais dont on se prend à rêver, à se persuader qu'ils peuvent aller loin dans cette Coupe du Monde ont dominé la Bolivie 2-0 samedi à Orléans. Signaux au vert et Yoro Mangara qui croise les doigts après l'Afrique. La conquête du monde est lancée. Yoro, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. On va gagner la Coupe du Monde.
C'est carré, au moins lui il le dit clairement. Ouais. Donc, et pourtant, il y a une chance sur 32 pour eux aussi. Côté marocain, première de Walid Regragui, succès 2-0 face au Chili. Ziyech et Mazraoui sont là et bien là. Et ça aussi, Hervé Penaud, c'est encourageant pour les Lions de l'Atlas, non?
Mais absolument, tous les Lions sont encourageants. Hein, ils sont déjà 3 à y être. Alors, ils ont 3 chances sur 32.
Les Lions indomptables, on en parlera demain, c'est un peu moins encourageant.
C'est pas grave, ça reste les Lions. Il y a 3 chances sur 32 pour que les Lions remportent la Coupe du Monde. Voilà, il faut le dire.
L'Olympique Lyonnais, lui, en revanche, c'est...
C'est autre chose, mais ils ne seront pas en Coupe du Monde.
D'accord, parce que c'est un Lion.
Oui, c'est vrai.
Coupe du Monde encore pour finir cette émission, alors que des voix de plus en plus nombreuses, enfin, disent certains, sans que cela s'entende vraiment, appellent au boycott. Un peu tard, sans doute. D'autres organisent la riposte, voire une petite contestation sur place. L'UEFA a validé le port par les capitaines des 10 nations européennes d'un brassard arc-en-ciel, symbole de la lutte contre les discriminations, et appelé One Love. Affaire validée encore par la FIFA.
C'est une belle chanson, ça, Olivier, ça.
One Love.
C'est pas trompé d'émission. Ça n'est ni la Star Academy, ni The Voice. C'est bien Radio Foot International. Et on va parler donc de cette Coupe du Monde au Qatar. Émission infusée par David Finzel, réalisée par Monsieur Salerno, présentée avec l'aide de mon nez, vous l'entendez. Je suis bien désolé.
C'est bon ballon, ça. Énorme volume de jeu d'Armsgaard face à Saliba, le centre. Et c'est coupé par Casper Dolberg, qu'on n'avait pas encore vu en ce début de rencontre, en 4e minute. Passe décisive de Damsgaard. Les Rouges mènent 1-0. Bien tiré par Christensen, pas de possibilité de frappe. Si ! Et c'est Scott Olsen qui vient sanctionner encore les Bleus sur ce coup de pied arrêté. Et les champions du monde sont clairement dans le dur maintenant. 2-0 pour le Danemark.
C'était hier soir à Copenhague, donc, où l'on a pu constater au passage combien Christian Eriksen, c'est une petite digression, était redevenu un immense joueur 18 mois après avoir failli perdre la vie dans ce même stade à la suite d'un arrêt cardiaque. À Copenhague, donc, où les Bleus, après 20 très bonnes premières minutes, ont pris l'eau, le bouillon, la marée. Bref, ils ont été dépassés. Mauvais comme jamais, ou pas souvent. Vous êtes d'accord avec ça? Vous rentrez à l'instant de Copenhague.
Oui, je rentre de Copenhague. Mauvais comme au mois de juin, hein, déjà. Deux défaites et deux nuls au mois de juin déjà contre le Danemark. Hein, donc dans les trois défaites sur l'année civile, ce qui est le record, il y en a deux contre le Danemark déjà. Deuxième adversaire des Bleus au Mondial. Donc ça, c'est pas terrible. Quelconque. Ils n'avaient pas le niveau de la Ligue 1. Quoi, hein, quand Kasper Schmeichel est le meilleur désigné homme du match et que Kasper Dolberg marque, c'est que vous n'avez pas le niveau de la Ligue 1.
Les deux Niçois.
Donc il y a ouais, c'était
Ex-Niçois pour Dolberg.
Voilà, c'est vrai. Il y en a un
Schmeichel
qui est...
Schmeichel est toujours...
Qui ouais. Depuis cette année. Ouais. Et donc, ouais, c'était pas terrible, quoi. C'était pas terrible du tout. Bon, Olivier, je vais commencer à sortir les circonstances atténuantes.
Oui, on va en parler,
bien sûr. Au Mondial, là, hier soir, il y avait trois titulaires. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, tout le monde sera d'accord, et éventuellement Aurélien Tchouaméni, mais je vois pas comment avec Pogba et N'Golo Kanté, ils seraient pas titulaires parce que les deux sont aujourd'hui blessés. Parce que, vous l'avez dit, dans le décor de tout ça, il y a énormément de blessés. En fait, vous avez une défense que vous ne reverrez jamais.
Puis Tchouaméni a peut-être celui qui a été peut-être à des bois mauvais sur les ouais, deux matchs ou pas, hier.
Ouais, pour moi, c'est Badiachil le moins mauvais qui fêtait sa deuxième sélection. Donc c'est vous dire. Donc c'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de poids du maillot. C'est une question de niveau, tout simplement. Et moi, je pense que, par exemple, Dayo ou Pamecano ou William Saliba n'ont pas le niveau international. Après, c'est comme mon avis. Hein. Je pense que ce ne sont pas des joueurs encore internationaux.
Ils sont peut-être un peu jeunes. On va en reparler, bien sûr. On écoute l'analyse post-match du sélectionneur Didier Deschamps. Une sorte de retour à la réalité.
On a eu énormément d'occasions aussi. Après, quand il n'y a pas les ingrédients, peu importe le système. Au niveau des duels, on a été défaillants. Et on a commis des erreurs techniques sur les relances aussi. Donc ce soir, c'est être en contact avec la réalité, ce qui va nous attendre dans deux mois.
Oui, et c'est assez inquiétant, gros, Hervé.
Inquiétant, bah c'est difficile à dire parce qu'effectivement, il y a la série. Ça, la série est inquiétante. Hier, l'équipe de France ressemblera assez peu à l'équipe qu'on a vue hein, contre le Danemark. Mais d'un autre côté, on sent qu'il y a tout un climat autour de cette équipe de France qui fait qu'on est plus tiré vers le bas que vers le haut. Alors déjà, on ne sait pas dans quel état seront les joueurs quand ils vont venir. Parce que pour Pogba, bon, l'affaire est réglée. Pour N'Golo Kanté, il se blesse très souvent. Alors est-ce qu'il sera capable d'enchaîner des matchs de très haut niveau? Ils vont être très rapprochés, les matchs en Coupe du Monde, parce que c'est une Coupe du Monde qui dure assez peu de temps. Donc tout ça fait qu'il y a plus d'interrogations que de certitudes. Là, ce qu'on peut quand même dire, c'est que sur le papier, l'équipe de France quand même a des joueurs de très très haut niveau, parce que même les remplaçants des remplaçants, ce sont des gars qui jouent au Bayern Munich, qui jouent au Milan AC, etc., etc. Donc sur le papier, ça veut dire quelque chose. Mais je suis d'accord hein, tout à fait avec mon éminent confrère du Parisien, il faut le dire, c'est Upamecano, pour moi, c'est le symbole un petit peu du désastre français actuel. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui joue au Bayern Munich dans un grand club. Donc, niveau international ou pas, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, moi, le niveau international, pour tout vous dire. Simplement, et là où je serais moins d'accord, c'est quand il a dit que ce n'est pas le poids du maillot. Moi, je pense que c'est le poids du maillot. C'est-à-dire que le poids du maillot fait qu'il y a des joueurs qui, même moins bons, l'assument. Et certains qui, pourtant, ont à première vue un pédigré haut de gamme, eh ben, ne peuvent pas assumer. Eh ben, ça, c'est le cas de Upamecano.
Jérôme, votre avis sur l'équipe de France?
Je crois qu'il y a un leurre, en fait, quand on regarde les joueurs, ils sont tous dans de grands clubs. Hier, tous presque jouent dans de grands clubs. Mais oui. Sauf que dans les clubs dans lesquels ils sont, ils ne sont pas les locomotives. Ils sont tractés par des locomotives. Par aujourd'hui, vous prenez Tchouaméni, il est entouré par Modric et Toni Kroos. C'est ce qui se fait de mieux en Europe parce que s'entraîner et jouer avec de tels monstres au milieu de terrain, ça sera encore meilleur. C'est valable pour les autres joueurs, Pavard, etc. Ils sont dans des clubs où il y a beaucoup de grands joueurs qui les aident. Hier, c'était une équipe très jeune. Ils étaient très jeunes et je ne crois pas qu'on puisse demander à un joueur comme Kamavinga de porter les bleus. Il manquait cette touche technique au milieu de terrain et je crois aussi qu'il y a ce facteur exogène qui vient se greffer à tout cela, s'emberlificoter avec tout ce qu'on connaît. Il y a l'affaire Pogba. Il y a aujourd'hui un joueur comme Olivier Giroud. Vous le prenez à la Coupe du Monde? Après ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourra mettre dans un même club, dans une même équipe, quelqu'un comme Benzema et Giroud? C'est compliqué. Bah, et tout ça, c'est à gérer.
Yoro, je ne suis pas d'accord avec toi sur la première partie de ta démonstration, parce que ce n'est pas en ayant les meilleurs joueurs que tu fais les meilleures équipes. Une sélection, c'est
une alchimie aussi.
C'est une alchimie. Parfois, tu peux avoir des seconds choix ou des joueurs un peu moins forts en club. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, à la Coupe du Monde 2002, on avait les meilleurs buteurs de championnat d'Angleterre, de France.
En 2002,
on s'est ramassé. Et on s'est ramassé, on a mis 0 but. À l'Euro, on a il y avait déjà ce trio-là, Benzema, Mbappé et Griezmann, on a fini éliminé contre la Suisse en huitième de finale. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, il y a trop d'interrogations. C'est-à-dire que Pogba, Hervé dit c'est fini, lui il espère rejouer le 25 octobre, le premier match des Bleus le 22 novembre. Donc à moi...
Avec l'affaire qu'il y a autour de lui ?
Non mais moi
je parle sportivement.
D'accord. Après l'affaire c'est autre chose. Là où tu as raison, c'est que Giroud, on sait plus, moi je sais plus ce que le sélectionneur veut dire. Il dit est-ce qu'on peut assumer le statut de remplaçant ? Après Benzema et lui, il habite pas au même étage. Benzema, il a rien à faire de Giroud. Si Giroud sur le banc, Benzema ça l'empêche pas de jouer. C'est plus Giroud, est-ce que lui va accepter de rester un mois remplaçant ? Donc est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas ? Pogba, est-ce qu'il sera rétabli sportivement ? Que vont devenir ces affaires ? Est-ce que dans un mois, dans deux mois, on en saura un peu plus sur l'histoire du marabout, sur tout ça ? Là où tu as raison, il y a trop de questions. Et Noël Le Graët, la fédération, on le vire avant le mondial, après le mondial, on fait pas de bruit avant, on garde les affaires, on verra après. Là où tu as raison, il y a beaucoup trop d'affaires. Mais bon, le fait qu'on ait des joueurs parfois moyens... Bon, bah ça, c'est
pour rebondir sur ce que
l'Argentine,
disait Giroud,
autour de Messi, il n'y a pas des très grands joueurs toujours.
La défense a été franchement mauvaise hier, tous, quasiment, unanimement. Elle était meilleure contre l'Autriche. Il y avait Varane. Et je rebondis sur ce que disait Yoro sur le fait qu'il y a un leader. Varane a peut-être servi jeudi de leader. Quand même, il a l'expérience. Il a été beaucoup blessé. C'est moins fort sans doute qu'avant. Mais il était là. Hier, on les a sentis complètement perdus.
Je fais très vite, Hervé. Ouais. Pour moi, ça prouve qu'on a une équipe. Qui tient la route et pas deux. Et on a un banc très faible. Et cette équipe qui tient la route, je ne sais pas si elle sera championne du monde, mais on n'en a qu'une. Et le banc est très faible.
Oui, parce que les leaders, ils existent. Simplement, ils ne sont pas sur le terrain. Ils n'étaient pas sur le terrain hier. C'est mais ça. Varane, derrière, c'est un leader. Loris.
Oui. Et Varane, c'est un leader. Ça rassure Upamecano, ça rassure Saliba, voilà.
Quand il y aura Kanté, c'est un leader par le jeu. Alors, peut-être pas par la parole, mais en tout cas par le jeu. Et quand vous avez Benzema, évidemment que c'est un leader. Donc, c'est-à-dire que dans chaque ligne, il manquait quelqu'un d'important. Donc, évidemment, c'est
mais
pas le même.
Il manquait tous les leaders, voilà. Sauf devant.
Donc,
mais
ça
devant,
veut dire
ça
qu'après,
pas
on a les
plus.
Joueurs qui viennent un peu s'agglomérer à ces leaders-là. Et puis, bon, ils n'ont pas été capables de prendre le match en main. Mais juste pour un peu sauver les joueurs défensifs, c'est vous savez, quand vous êtes défenseur et que c'est aussi poreux au milieu de terrain, et quand je dis milieu de terrain, je parle aussi un peu du travail des attaquants, bah évidemment vous êtes en difficulté, vous pouvez pas vous en sortir, on peut pas s'en sortir dans ces conditions-là. On l'a vu contre la Suisse avec tous les leaders qu'on avait, c'est qu'à un moment quand ça a explosé, quand vous êtes plus capable de jouer en équipe, et ben vous êtes mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier et ce qui s'était passé contre la Suisse, pourtant avec Pogba, avec Benzema.
Oui, c'est ça.
Et
au mois de juin, il n'y avait pas 15 blessés. On est quand même sur une série d'une victoire en 6 matchs. Si l'on accepte la victoire 5-0 face à l'Afrique du Sud, je crois qu'on est à peine un but inscrit par match, alors qu'on est censé avoir une énorme...
Tout mais ça, mais
je pensais que les calculs sont pas bons,
Olivier,
Kevin.
Olivier, on n'a pas progressé depuis l'Euro, depuis cette élimination. Il y a eu la parenthèse de la Ligue des Nations, mais qui on a remporté face à la Belgique et l'Espagne sur deux deuxièmes périodes qu'on a réussi, parce qu'en fait, les deux premières périodes sont ratées face à ces deux nations majeures du football que sont la Belgique et l'Espagne. Donc on est sur un trou de souris, quoi.
Par exemple,
moi je ne sais pas le piston droit de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si ce sera Jonathan Klose, Benjamin Pavard qu'on a testé hier et qui n'aime pas ça, si ça sera Kingsley Coman qui joue parfois.
Non, logiquement ce sera Klose, parce que même s'il n'est pas exceptionnel, on ne va pas non plus le tailler complètement, mais il n'y en a pas d'autres.
Mais Kingsley Coman,
comment on ne peut pas jouer comme ça dans des gros matchs.
Les joueurs disent à Deschamps, ça a été écrit, c'est documenté, les joueurs ont dit à Deschamps qu'il n'avait pas le niveau, Klose. Donc t'es obligé aussi d'écouter ton groupe qui dit...
Mais le problème aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais revenir sur Deschamps, c'est que j'ai trouvé déjà qu'il a eu une séquence là, durant cette semaine très mauvaise. Il est assez rarement mis en difficulté comme ça, à cause de l'histoire, évidemment, de la fédération. Il ne savait pas exactement quoi répondre. Après, je l'ai trouvé pas à l'aise. Et même dans sa manière de faire jouer son équipe, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il estime qu'il faut jouer à 3 derrière. Mais finalement, l'équipe de France à 4, c'était aussi assez tranquille. Il a voulu tout faire pour ses joueurs offensifs. Ce qui peut se comprendre, ils voulaient mettre dans les meilleures conditions Mbappé, Griezmann et Benzema.
Ils jouent à 3 derrière,
voilà.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Mais vous ne gagnez pas une Coupe du Monde, il y a un euro d'ailleurs, le dernier on l'a vu, vous ne gagnez pas une Coupe du Monde sur les attaquants. Vous le gagnez sur la défense, sur la capacité à ne pas prendre de but. Parce que marquer, Bon, vous avez pourra marquer, vous n'êtes jamais sûr de marquer plein de buts, on l'a rappelé pour 2002. Donc aujourd'hui, il y a quand même aussi des interrogations sur le système de jeu de l'équipe de France. Tout ça, ça a été fait pour les trois de devant. Alors est-ce qu'il ne va pas falloir dissocier ces trois? Quand je dis dissocier, ce n'est pas nécessairement en enlever un, mais les remettre dans des positions où ils étaient avant, en mettant Griezmann à droite.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun des trois qui veut jouer sur un côté.
Sur le côté, c'est ça.
C'est-à-dire que Kylian Mbappé a fait la Coupe du Monde 2018 sur le côté droit, et il a dit après, c'est terminé, moi j'ai changé de statut.
L'avantage que tu as, oui, mais avec Benzema, c'est que Benzema adore aller à gauche. De toute façon, Benzema joue beaucoup à gauche.
Mbappé veut jouer à gauche.
Mbappé veut jouer à gauche. Mais ça pourra permettre aussi à Mbappé de rentrer intérieur. Avec un Griezmann qui est un peu plus docile.
Tu mettrais où en tant que
Griezmann? À droite. Non, parce que si tu décides de changer ton système à 5, si tu restes comme ça, on peut rester comme ça.
Si tu fais en 4-4-2, par exemple, tu mets Griezmann à droite, tu mets qui à gauche sur le côté gauche? Tu mets Ousmane Dembélé, c'est trop offensif. Tu mets qui à
droite? Non, mais il ne fera pas un 4-4-2. Il jouera certainement. La logique voudrait que tu sois en 4-3-3. C'est-à-dire garder les trois, mais les mettre dans une autre configuration.
Alors ton milieu, parce que si tu n'as pas Pogba, tu pars avec Tchouaméni et
Kanté, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre.
C'est qui le troisième?
Ça peut être Rabiot, ça peut être pas Kamavinga qui était un peu en difficulté.
Il reste Guendouzi, Youssouf Fofana.
Youssouf Fofana, j'aime bien. Je pense que c'est quelqu'un qui sera bon à la récupération, qui peut avoir de l'impact physique et ce dont tu as besoin sur des coupes du monde.
C'est deux sélections pour l'instant.
C'est pareil, mais à un moment,
Kamavinga ne sera pas.
Ah, il sera dans le groupe.
Écoutez,
Deschamps
a laissé entendre qu'il n'y aurait pas 26. Je pense qu'il fera peut-être une exception. Il ira peut-être à 24 pour Pogba ou pour Giroud. Parce qu'il va prendre Nkunku, le remplaçant modèle. Il va prendre des joueurs comme ça. Il va prendre. Au milieu de terrain, on parle de N'Golo Kanté, de Rabiot, de Tchouaméni, mais peut-être qu'il y aura aussi un Guendouzi, il y aura peut-être. Donc il y a des joueurs comme ça de complément, donc peut-être qu'il fera une petite place à Giroud, 24e, peut-être à Pogba.
J'ai du mal à imaginer que Pogba puisse y être, mais bon.
Mais bon.
Vu ce qui s'est passé, oui, tout ce qui est autour,
il
n'y sera pas, parce que déjà, ça faisait un an et demi qu'il n'était pas venu, 2 ans qu'il n'était pas venu. Il s'est raté dans les grandes largeurs, donc malheureusement, il faudrait qu'il y ait une hécatombe. Moi, je préfère un profil comme Youssouf Fofana. Alors, c'est pas tout à fait le même registre, mais je préfère Youssouf Fofana. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il a dit des gens, on a perdu le DEL, on n'a pas été bon dans l'engagement, on n'a pas été bon dans l'agressivité. Bon, c'est ces joueurs-là aussi. Paul Pogba, s'il était là, on sait que c'est pas ce qu'il préfère, aller à la maillotche. C'est ce qu'aime N'Golo Kanté, c'est ce qu'aime Aurélien Tchouaméni. Un troisième, Adrien Rabiot, c'est pas trop son style non plus. Donc, Youssouf Fofana ferait du bien.
Et défensivement, vous disiez Jonathan Clauss. On dit que des joueurs en interne auraient dit il n'a pas le niveau. Ouais. Ben vous mettez qui alors à la place?
Ousmane Dembélé, lors de la dernière Ligue des Nations, a joué plus son droit. Kingsley Coman, plutôt, il a été bon. Il a été très bon.
J'ai peur qu'il soit quand même en difficulté défensivement. Si tu n'es pas sûr de tes trois centraux, trois axiaux, s'il y a des difficultés sur les positionnements, comme on a pu
les
en voir
axiaux,
toute l'année.
C'est
l'année.
Koundé, Varane et Lucas Hernandez. Ouais. Lucas Hernandez ou Presnel Kimpembe. Ouais.
Donc c'est quand même costaud.
Oui, pas Koundé.
Koundé à droite, Raphaël Varane en centrale et à gauche, axe gauche, Lucas Hernandez numéro 1, a priori Presnel Kimpembe numéro 2. Piston gauche, Théo Hernandez. Piston droit à choisir parmi trois joueurs, Pavard. Alors, un Klaus, deux Kingsley Coman, trois Pavard. Pavard ne veut pas faire ça, mais il l'a été en Danemark. Je pense parce qu'il y avait une hécatombe de.
Et vu comment il était en difficulté, donc il l'a remis dans l'axe en deuxième période.
Les joueurs disent qu'il n'a pas le niveau, il découvre la Ligue des Champions, il en est à 2 matchs, à 2 défaites, ouais, malheureusement, avec Marseille. Ouais. Et le troisième, c'est Kingsley Coman, mais. Ça, quand vous êtes en 8e de finale, les matchs couperés au quart de finale, Kingsley Coman, piston droit, si vous êtes face à l'Argentine, l'Espagne ou la Belgique, il va falloir défendre. Je ne suis pas sûr que Kingsley, il aime bien se replier, il aime bien tout ça. Je ne suis pas sûr que Deschamps, il ait envie de jouer avec Benzema, Griezmann, Mbappé, Kingsley Coman, piston droit.
Ouais. Non, ça paraît compliqué.
Ça paraît d'où probable.
Donc le plus logique, c'est quasiment de
revenir avec 4 défenseurs.
4 défenseurs. Faisons Deschamps, n'oublions pas, quand il a gagné la Coupe du Monde, il est parti sur une équipe de départ. Dès le premier match, dès le deuxième, tout était changé. Enfin, pas tout, mais surtout la structure d'équipe avec Dembélé qui a sauté, etc. Il voulait de la vitesse sur les côtés. Et donc, tout est possible pour le premier match.
Et devant, ça a été l'inverse de jeudi contre l'Autriche. En quelque sorte, pas de réussite ni de réalisme. Mbappé, à nouveau très agaçant. Giroud, pas dans le coup. Griezmann, brouillon. Mais il ne s'inquiète pas, l'attaquant de l'Atlético. Il y a eu des changements, certes, mais il faut continuer à voir haut.
Le coach veut voir les joueurs, on essaye de trouver des solutions et voilà, après on va pas dire que c'est la faute à beaucoup de changements. Peu importe les joueurs, c'est la mentalité où il faut gagner les duels. Devant, on a été un peu timide, on a raté les derniers gestes, donc voilà, mais ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde. On a le groupe et le coach pour viser très haut, donc à nous de travailler, de tout mettre en place pour être prêt pour la Coupe du Monde.
C'est la méthode Coué ?
Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Ils ont perdu 2-0, ils ne vont pas dire « c'est terrible, on a une équipe désastreuse ».
Non, mais il peut dire qu'on a été mauvais, point barre. Et
Oui, mais bon, vous savez, c'est le principe même des joueurs, ouais. C'est qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Être joueur de haut niveau, c'est savoir accepter les défaites et puis savoir rebondir. Là, comme ce n'était pas un match important en soi, déjà, ils ont sauvé leur place en groupe A, ça ne paraît rien, mais c'est quand même capital.
Ils étaient tenants du titre et ils passent par un trou de souris.
S'ils étaient passés en groupe B, là, ça aurait peut-être été différent.
Bah, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à la Croatie.
Absolument, c'est grâce à la Croatie. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il y a combien ? 13 matchs jusqu'au début de la Coupe du Monde pour les joueurs.
Pour ceux qui jouent la Ligue des Champions,
certains 11.
Voilà, 11 ou 13, donc bon, ça veut dire que là, pour l'instant, ils sont plongés déjà dans autre chose. Bon, c'est à la fois la chance et la malchance de cette équipe de France. La chance, c'est de repasser à autre chose et puis on oublie tout à fait les défaites. Et puis la petite malchance, c'est que pour Deschamps, le prochain match, ça sera un match de Coupe du Monde.
Après, je crois qu'il ne faut pas intéresser cette équipe de France puisque ce ne sera jamais une équipe de possession, ce sera une équipe de transition. Et à la Coupe du Monde, je peux vous assurer, contre ces équipes qui vont s'enflammer avec le ballon, ça pourrait piqué à tout moment avec la vitesse de Kylian Mbappé. Ça peut récupérer bas et jouer très rapidement en contre. Mais face à l'Autriche, il y a quelques jours, ici au Stade de France, ça part de deux récupérations rapides et une phase de transition rapide. Et sur ce, je peux vous dire que cette équipe, il ne faut jamais l'enterrer parce qu'elle peut faire mal. Imaginez-vous au milieu de terrain demain avec Fofana, Tchouaméni et un autre, ça va récupérer des ballons.
Et Kanté,
par exemple. Ouais. Et ça peut...
Oui, mais alors...
Ça peut.
Si ça reste une équipe de transition, il faut se méfier du premier tour. Parce que face à l'Australie, le Danemark et la Tunisie, a priori, tu auras le ballon.
C'est ça.
C'est après. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais alors, si c'est une équipe de transition, il vaut mieux qu'elle rencontre après l'Espagne, l'Argentine. Vaut mieux pour qu'elle puisse les contrer. Quoi. Mais le premier tour, face à des adversaires qui vont vous laisser le ballon, et l'Australie va commencer dès le 22 novembre.
D'où l'intérêt d'avoir
les ballons. Et en Russie, la victoire contre l'Australie avait été capillotractée. Ah oui,
oui.
Il y a les raccords capillotractés. Tracté, tiré par les cheveux. Non, c'est vrai, c'était un miracle.
Oui.
Derrière vous jouez le Danemark qui est plutôt
Derrière, c'est le Pérou, c'est le but de Kylian Mbappé. Et après, le Danemark, c'est 0-0, mais t'es déjà qualifié.
Mais là, dans la prochaine, l'Australie, on sait que ça a été compliqué aussi. Vous jouez le Danemark qui vient de bien nous dominer très largement deux fois.
Ouais, qui a le moral en hausse, on va dire.
Voilà, et le troisième match, on le rappelle, ce sera contre la Tunisie. Et puis, aussi, on parle beaucoup des absents. Ah, ben quand ils seront là, ce sera mieux, mais dans quel état de forme ? On parle de Kanté, de N'Golo Kanté. Il reprend quand ? Il sera dans quel état dans le monde ?
Logiquement, assez vite. Là. D'ici une semaine ou deux, il doit être là, non ?
Ouais, mais Presnel Kimpembe, c'est 6 semaines d'arrêt quand même. On dit qu'il faut autant de temps pour revenir que la durée de votre indisponibilité. Donc ça nous emmène au début du mondial. Ils ont tous quand même des pépins. Ils ont des pépins. Alors, les spécialistes disent que parce que le calendrier est démentiel, parce qu'on met deux saisons dans le premier semestre, on met deux saisons
parce que
l'une.
Les clubs les ont préparés pour être très forts là tout de suite.
Sauf que après cette trêve là, donc à partir de ce week-end avec la reprise des championnats, c'est pire. Les matchs sont encore, il y a 13 matchs et ça va être le cadence va être encore pire parce qu'il y a plus de, il reste 4 matchs de Ligue des Champions, il reste les journées de championnat. Donc là, le calendrier va s'accélérer entre guillemets avec encore plus de matchs. Donc si les mêmes causes produisent les mêmes effets, si pourquoi vous en avez 15 aujourd'hui, vous en auriez pas 15 dans 2 mois quoi. Pas forcément les mêmes. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri de y aller sans Benzema, de y aller sans Griezmann, sans Mbappé, sans Loris. C'est terrible, quoi. Donc, sur le papier...
C'est
l'équipe
pareil
de...
pour tout le monde.
Mais
pour ça qu'on ne dégage pas de favori, d'ailleurs, dans cette Coupe du Monde. Bien malin, celui qui pourrait dire, tiens, voilà, cette équipe-là, elle va aller très très loin. C'est évident, c'est la favorite. C'est vrai que c'est quand même très ouvert.
Plus le contexte, Olivier. Une Coupe du Monde milieu de saison, ça n'a jamais été fait. Donc, moi, je ne sais pas. Il va y avoir...
Justement, la transition, on va y arriver. J'ai encore 2-3 choses à vous dire. Mais c'est vrai que les seuls qui savent ce que c'est que de jouer en milieu de saison une grosse compétition.
Mais c'est nous.
Ce sont les Africains. On va y revenir. On rappelle juste la
sans
liste.
Préparation en plus.
La liste de Didier Deschamps, elle est annoncée donc entre le 7 et le 13 novembre. C'est en discussion en ce moment avec le sponsor principal, TF1. Retrouvailles de tout le monde le 14. Le programme des Bleus à la Coupe du Monde, on le rappelle, entrée en lice le 22 novembre contre l'Australie avant de retrouver le Danemark et de clore cette phase de poule face à la Tunisie. Donc voilà, il y a encore du pain sur la planche. Voilà pour ce qui est de l'équipe de France.
Il a fallu attendre le début du match. Mais ça valait le coup d'attendre. Allez Sadio, il s'élance. Et il marque, bien sûr. Comment peut-il en être autrement? Sadio Mané, toujours aussi précis, serein dans ce genre d'exercice. Il est fort Sadio Mané. Et il permet au Sénégal de mener 2-0 juste avant la mi-temps.
Passons donc aux équipes qui vont bien et qui voient loin, le Sénégal d'abord, parce que c'est vrai, alors on va pas dévoiler un secret, mais on peut vous dire que parfois on se voit en dehors de l'émission et parfois on va même loin, on fait des longs voyages avec Yoro Bangara et Hervé Penaud. Mercredi, nous sommes allés à Orléans, une dinguerie quoi.
On voyage toujours avec Hervé.
Oui, on avait pris des passeports, on avait les visas, tout ce qu'il fallait, et puis on est allé rencontrer les Sénégalais. On a notamment rencontré Kalidou Koulibaly, que vous entendrez dans les semaines qui viennent, que vous avez déjà entendu, qu'on écoutera tout à l'heure, charmant garçon qui nous a accordé un long entretien et qui disait justement ce à quoi je faisais référence, on faisait référence avec Yoro. Quand on lui demande, bon, tous les sélectionneurs, tous ceux, on en parle, cette compétition qui arrive au milieu d'une saison, c'est quand même étonnant. Et lui, il rappelait, bah non, nous les Africains, on sait ce que c'est, parce qu'on joue la CAN en janvier tous les deux ans, et on sait bien ce que c'est. C'est peut-être là qu'il faut voir un avantage pour les nations africaines dans cette Coupe du Monde.
Et la chaleur.
Ouais, enfin la chaleur, ça j'y crois pas beaucoup. Il y a tellement de joueurs africains. Il y en a combien qui jouent au pays et dans la chaleur? Ont-ils encore, les Kalidou Koulibaly nés à Saint-Dié-des-Vosges, ont-ils vraiment cette expérience de la chaleur, mon cher Yoro? Ça j'y crois pas beaucoup. C'est ce qu'avançaient les Algériens quand ils sont arrivés.
Le corps humain a une capacité d'adaptation, parce que eux ils sont nés. Sadio Mané est né à Bambali, il a grandi à Bambali. Il suffit qu'il reste 2-3 jours sous une température de 35 degrés, son corps s'adapte, parce que son corps avait l'habitude et a l'habitude de vivre.
Le corps a une mémoire, Yoro.
Mais ça marche pas pour Kalidou Koulibaly.
Mais même Kalidou,
parce qu'à Saint-Dié-des-Vosges, je peux vous dire qu'il fait moins 12 même du 1er janvier.
Demandez à Bounassar ce qui lui a marqué lors de sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal, il te dira la chaleur. Il n'a jamais vu.
Bon, enfin, il fait de toute façon, sur un après chaque convaincu tout ce qui pourra permettre à une équipe africaine d'aller au moins en demi-finale, ce qui ferait de cette Coupe du Monde historique pour le continent.
Pourquoi pas la gagner?
Alors, je vais vous livrer une autre anecdote sur Kalidou Koulibaly.
Pourquoi vous voulez une demi-finale?
Non. On sort de l'entretien avec Kalidou Koulibaly quelques minutes après avoir discuté à droite à gauche. On va le saluer au moment où on partait. Je lui dis, moi, j'ai la chance de suivre le Sénégal à cette Coupe du Monde, comme en 2018. J'espère que ça se passera mieux. Je lui dis, on en avait déjà parlé dans l'entretien. Je lui dis, bon, on se retrouve au Qatar, on se reverra pas avant. Et je lui dis, pour au moins 4 ou 5 matchs. Je voyais déjà 8e écart. Et il m'a regardé, mais très sérieusement, en disant, et pourquoi pas 7?
Ben oui.
On rappelle à nos auditeurs, si vous jouez 7 matchs, ça veut dire que vous jouez au moins à la finale, ben vous êtes donc au minimum vice-champion du monde.
C'est pas fou,
c'est tout le mal que l'on souhaite à Aliou Cissé.
C'est pas fou d'imaginer le Sénégal champion du monde.
Ah, mais non, mais
c'est pas fou du tout.
On est bien d'accord. Imaginez pour l'histoire du football, imaginez. Alors pour nous, on ferme la porte.
Moi, j'aimerais bien vivre ça.
Jamais plus vivre un truc aussi extraordinaire.
Moi aussi, j'adorerais le vivre, ça c'est une évidence. Mais maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. Vous savez que c'est la première CAN.
Oui, et d'imaginer que cette fois, peut-être, pourquoi pas,
Est-ce que c'est farfelu?
Non, mais rien n'est farfelu.
Ça l'est moins
façon,
que
c'est...
les autres
mais
années.
Il faut bien se rendre compte que le Sénégal, c'est la première fois qu'il gagne la CAN, déjà.
Oui.
C'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour eux. Donc aujourd'hui, ils sont dans un groupe qui est largement dans leur code. Faut déjà passer
dans une super dynamique aussi.
Il faut passer ce premier groupe, cette phase de groupe, aller en huitième de finale. Après, sur un seul match, ils ont les moyens d'aller très loin, ça c'est une certitude. Maintenant, ils n'ont pas l'habitude de ce type de rencontre aussi. En plus, il y a quelques joueurs, il ne faut pas l'oublier, qui sont en difficulté en club.
Ils attaquent par le gros tout de suite. Ils attaquent par le Pays-Bas.
C'est très bien.
Premier match Pays-Bas, très bon calendrier. Oui, parce que bon, ça donne une idée. Derrière, il y a l'Équateur et le pays hôte, le Qatar. Voilà, juste pour rappeler les...
Non, parce que cette musique qui est de dire aujourd'hui, tiens, le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. C'est-à-dire qu'il y a des super joueurs, c'est un super groupe. Mais enfin, il ne faut pas mettre une pression démentielle sur un groupe qui n'a pas passé le premier tour.
Hervé, je vous rappelle que ce n'est pas moi qui parle, c'est Kalidou Koulibaly qui dit pourquoi pas 7 matchs.
Ah, mais c'est normal, mais bien sûr. Oui. Moi, Didier Drogba, il dit ça en 2010. Il m'a dit, mais 7 matchs, je me dis pourquoi pas. Oui, c'est sûr.
En fait, nous, ce qu'on a au Sénégal, c'est qu'on a un très bon gardien de but. On a une paire
bon, de défense. Qui attaque la saison un peu moins bien quand même.
Oui, oui, d'accord. Mais ils sont une perte de défense. Moi, je peux vous dire Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo.
Par ligne, vous les avez.
Kalidou Diallo, Abdou Diallo, c'est pas moins fort que l'axe central de l'Argentine ou de l'Espagne, quoi. Mm. Paolo Lopez, etc. Ils sont pas plus forts que Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo. Vous allez devant avec Gana Gueye, Nampalis Mendy, ou etc. Gueye.
C'est le petit d'Hervé Penaud, donc c'est du bien.
Et devant, il y a du matos, quoi.
Ah oui, devant, il y a du matos.
Ah bah, oui, ça, devant, oui.
Oui, il y a un joueur hors norme.
Il a été très bon avant-hier, quoi.
C'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut dire que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde et que c'est pas farfelu, quoi. Mais comme l'Argentine, comme l'Espagne, moi, je serais prêt.
Sont presque les Européens qui nous inquiètent. On a l'impression que les Brésiliens, les Argentins, voire certains pays africains, sont mieux lancés que les Européens.
Non, non, non. Il y a des équipes.
L'Angleterre, c'est pas terrible. L'Allemagne, c'est pas terrible.
Ils sont pas mal. La Suisse est pas mal. Non, mais il y a pas mal d'équipes.
Mais les favoris, l'Allemagne est pas terrible. L'Angleterre est pas terrible. La France est pas terrible.
Merci. L'Italie n'y va même pas. Oui,
mais enfin,
l'Italie n'est pas qualifiée.
On verra ça en début du monde.
Enfin,
pour revenir au Sénégal, parce que là, c'est
très jouable. Au moins le premier tour, et après, on sort un groupe.
Voilà, non, mais ce qui est intéressant.
Qui est peut-être libéré par son titre de champion d'Afrique.
Oui, ça a pu l'aider. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques joueurs importants dans cette équipe qui ne jouent pas en club pour l'instant. Et donc là, ça, c'est un vrai souci. Hein, on parlait de Nampalis Mendy, par exemple. Lui, il ne joue pas à Leicester. Il n'a pas une minute de jeu. Et ils sont comme ça, 2-3 joueurs, à avoir peu de temps de jeu. Donc, il va falloir arriver à pouvoir les mettre à niveau en espérant qu'ils jouent d'ici le prochain mois. Bamba Dieng, il ne joue pas à Marseille.
Il n'est pas titulaire quand même avec la sélection.
Non, mais c'est important de pouvoir rentrer. C'est important d'avoir quand même un minimum de rythme quand tu rentres, même ne serait-ce que 20 minutes. Parce que ne pas avoir une minute de jeu en 4 mois.
On parlait tout à l'heure de Sadio Mané. Bah, on a vu aussi qu'il y avait un gars qui s'appelait Boulaïdia, qui fait un super début de saison avec la Salernitana en Italie. 3 buts de passe décisive en 5 matchs. Premier buteur samedi, on rappelle la victoire à Orléans, parce qu'on ne l'a pas dit, 2-0 face à la Bolivie. Je vous propose d'écouter Boulaïdia.
En ce moment, j'ai des bonnes sensations, que ce soit en club et en équipe nationale. Donc voilà, mes coéquipiers m'aident à retransmettre ça sur le terrain, donc tout se passe bien. On essaye de toujours marquer, et quand on ne peut pas marquer, aider l'équipe au maximum. C'est ça l'objectif d'un attaquant, on est jugé sur nos buts, mais pas que. Donc tant que le collectif gagne, c'est le plus important d'abord.
Boulaïdia avec le copain Sofiane Abazian qui était comme vous à Orléans samedi.
Boulaïdia a accepté justement d'aller à la Salernitana juste pour préparer la Coupe du Monde, parce que l'année dernière, il y a quelques mois, il a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal, éliminé en demi par Liverpool, et au match retour, il avait même marqué. Il a quitté Villarreal justement parce qu'il n'avait pas le temps de jouer adéquat pour préparer cette Coupe du Monde. Il est parti à la Salernitana, mais je peux vous dire que c'est un joueur facile qui va mettre 10-15 buts en Serie A.
Nous, ce qu'on a fait pareil. Il a quitté le PSG pour retrouver du temps.
Et ce qu'on a constaté, vous serez d'accord avec moi, Yoro et Hervé, c'est aussi cette bonne ambiance. C'était sympa, cet hôtel mercredi, ce groupe. On le sent, confiants, mais en tout cas...
Confiants, ils ont appris. Il y a 4 ans, cette équipe du Sénégal a été éliminée parce qu'elle avait un carton jaune de plus que le Japon.
Bah, parce qu'elle aurait dû battre le Japon aussi et qu'elle s'est un peu couillonnée elle-même.
Oui, d'accord. Mais elle a appris de ça, elle a grandi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les cages, on a un joueur même beaucoup plus fort que Khadim Diaye. Et ça rassure, quoi.
Absolument. Ça, parce qu'à l'époque, il y avait un problème de gardien de but. Là, il y a 2-3 soucis aujourd'hui pour Aliou Cissé. Aliou Cissé est d'ailleurs un meilleur entraîneur aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Il a appris. Oui. Il est devenu maintenant quelqu'un qui connaissait encore mieux le football mondial, évidemment. Et il y a deux interrogations. Il y a les latéraux, parce que malheureusement, Bounassar s'est blessé. Donc ça, c'est vraiment un coup dur. Il ne sera pas de la Coupe du Monde. Et Sabali s'est blessé. Alors Sabali devrait être de retour d'ici 2-3 semaines. C'est important. Parce que Ballo Touré, il est en difficulté. Je parlais des joueurs qui n'ont pas de minutes.
Saliou Cisse n'a pas de club.
Et Saliou Cisse avait fait une canne incroyable. Alors, vous allez me dire, un 6 peut en cacher un autre, évidemment, parce que Paté 6 a fait un très très bon match. Donc, comme juste devant la défense, parce que Mendy, lui, n'a pas de temps de jeu pour l'instant, mais il jouera certainement demain. Donc, ça veut dire que du côté gauche, Saliou Cisse, qui croyait aller à l'OM et puis finalement qui a refusé quelques clubs, il se retrouve aujourd'hui à s'entraîner à Diambars, avec son père certainement. Et ça, c'est un vrai souci. Alors que lui, jusqu'à présent en équipe du Sénégal, ça a toujours été quelqu'un de top. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il joue à Nancy, vous dites qu'il était qu'à Nancy, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de la CAN.
Il a été meilleur latéral.
Latéral de la CAN. Et il s'est pris quand même des joueurs du style Mohamed Salah. Donc c'est quelqu'un qui a prouvé déjà. Mais malheureusement, pour l'instant, sur le côté gauche, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir trouver. Alors il a joué Nam, par exemple, côté droit. Balotouré, mais Balotouré à 15 minutes de jeu au Milan AC.
Mais il y a Jacobs de l'AS Monaco.
Et Jacobs de l'AS Monaco qui rentre en deuxième mi-temps. Jacobs qui lui-même ne joue pas à Monaco, qui est un remplaçant à Monaco. Donc ça veut dire qu'il va falloir arriver à mettre ses joueurs dans des conditions parfaites. Je ne dis pas que c'est impossible, attention, loin de là.
Moi, je n'ai pas peur pour le côté gauche, parce que de toute façon, il y a 4 ans, Sabali, il a joué à gauche.
Mais Sabali, il n'a pas de souci.
Il peut jouer à gauche, voilà. Le problème, ce sera
à condition qu'il soit là et en forme.
Il faudrait trouver quelqu'un à droite. Là, on nous parle de Noah, qui est le fils de...
Moi, je vais
Noah Fadiga. Ouais.
Aliou Cissé, qui pour diverses raisons n'a pas pu nous parler mercredi, a promis un entretien dès que la séquence serait finie. J'en profite pour le dire à l'antenne, puisque c'est lui qui a fait la promesse. Donc on verra s'il tient sa promesse. On le harcèle dès jeudi prochain, parce qu'après Kalidou Koulibaly rencontrer Aliou Cissé, qui est quand même, vous le disiez, depuis 4 ans, qui s'est bien étoffé. Cette expérience, elle est là, il a des certitudes, il sait très bien où va ce groupe et ce qu'il peut en faire. Donc voilà, parole de capitaine maintenant, puisqu'on a parlé de Kalidou Koulibaly. Alors on rappelle que demain, ce sera à Vienne, face à l'Iran, puisque la Bolivie, c'était parce qu'il y aura l'Équateur au programme. L'Iran, c'est parce qu'il y a le Qatar au programme. Ils auraient aimé rencontrer un adversaire européen, mais puisqu'on nous a pondu, c'est bien le mot qu'il faut employer, la Ligue des Nations, c'est compliqué de rencontrer des adversaires européens. Bref, Kalidou Koulibaly, lucide, calme, serein. Quel bonhomme. Le défenseur passé de Naples à Chelsea cet été, nous l'avons rencontré mercredi à Orléans. On l'écoute.
Je pense que pour nous, les nations africaines, ça va pas être trop perturbant parce qu'on a l'habitude de jouer en milieu de saison. On a l'habitude de faire la CAN au mois de janvier. Donc pour nous, ça va pas être énormément perturbant. C'est vrai que par rapport au schéma de préparation, ça va être un peu plus difficile parce qu'il n'y aura pas de possibilité de faire des matchs amicaux. Il y aura moins de temps pour se préparer pour la Coupe du Monde. Mais la chance qu'on a au Sénégal, c'est qu'on se connaît depuis de plusieurs années. C'est le même groupe qui est là depuis plusieurs années et on a gagné une CAN ensemble. Donc ça va nous permettre de plus nous solidariser avec la Coupe du Monde très rapidement. Et ensuite, je pense que les joueurs sont prêts pour ça. C'était le rêve de la plupart de ces joueurs-là. On va essayer d'aller là-bas pour faire quelque chose d'énorme parce qu'on sait qu'une Coupe du Monde au mois de novembre, c'est nouveau pour tout le monde et ça donne des chances à toutes les nations. Donc on va profiter de ça aussi.
Il est sympa parce que sans le savoir, il a résumé tout ce qu'on venait de dire, Kalidou Koulibaly, à la fois l'objectif qui est d'aller le plus loin possible, le fait qu'eux savent ce que c'est que d'avoir une grosse compétition en plein milieu d'une saison. Encore une fois, voilà, il dit pas je vais gagner la Coupe du Monde, il dit on y va pour faire un gros coup parce qu'on a des certitudes.
Ça correspond à ce que vous disiez, on sent la détermination dans sa voix.
Oui. Il est
précis, quoi. On entendait les hésitations de Griezmann qui essayait de louvoyer, de noyer le poisson, de mettre la poussière sous le tapis. Là, le gars, il est clair, il est solide sur ses appuis. Il sait où il veut aller. Après, on verra ce que ça donne. Mais on sent quelqu'un de qui.
Mais il y a une confiance dans ce groupe-là. On sent que de toute façon la dynamique de la victoire à la CAN. Rendez compte qu'il faut imaginer quand même que c'est un pays qui n'avait jamais rien gagné, jamais, sauf un tournoi de plage.
Ça a perdu quelques finales.
Mais c'est tout. Sinon, il n'avait jamais rien gagné.
C'est un déclic
en club, comme donc ça peut être le déclic.
C'est un déclic ou pas?
Ah oui.
Oui. Tu le sens
quand
il est
parce que
ça change quelque chose.
Ça change quelque chose.
C'est une évidence, je trouve, dans l'attitude depuis février quand on les croise et même dans certaines.
Ils ont confirmé avec la qualification contre l'Égypte. Alors ça n'a pas été, ils ont pas battu l'Égypte 12-0, mais il n'empêche qu'ils ont fait un pas de plus pour aller maintenant en Coupe du Monde avec cette sensation, il y a un coup à jouer.
Allez, il faut jouer, faut parler un petit peu du Maroc. On rappelle simplement, rendez-vous le 21 novembre, donc du côté de Doha pour les Lions, du groupe d'entrée, les Pays-Bas, et puis le Qatar le 25 et enfin l'Équateur le 29. Allez, 3-4 minutes pour parler des Marocains qui vont bien, eux aussi, à l'image d'Abdelhamid Sabiri, le joueur de la Sampdoria et deuxième buteur samedi face au Chili pour un probant succès 2-0 des Lions de l'Atlas. C'était aussi la première sur le banc de Walid Regragui, remplaçant en fin d'été de Vahid Halilhodžić. On écoute d'ailleurs Walid Regragui rappeler à ses troupes qu'il ne faut pas s'enflammer, même s'il a aussi tous les signaux sont ouverts. Bon, on sait que le Maroc a souvent été prometteur et a rarement réussi des très gros trucs ces derniers temps dans les grands tournois, mais voilà, il rappelle. Walid Regrag.
Je suis content, mais on va pas s'enflammer. Il y a encore du travail. On a marqué 2 buts aujourd'hui face au Chili. C'est un très bon résultat. Ça se joue sur des détails. Ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est qu'au haut niveau, on peut être puni rapidement avec peu d'occasions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur la concentration et l'équilibre. Après, je pense qu'on s'est créé beaucoup de situations en première mi-temps. On a manqué, je pense, de prise de risque. On a fait un peu le jeu à la marocaine et au lieu de frapper des fois, on veut rajouter le crochet, on veut que ce soit un beau but. Ça, c'est des choses que je dois améliorer dans mon discours pour que nous aussi, on soit beaucoup plus efficace qu'on soit. Parce que ces équipes sud-américaines, européennes, elles sont létales.
Oui, alors pour vous situer sans doute la conférence de presse, hein, il devait avoir donc un pot de yaourt, il y avait un fil qui avait un autre pot de yaourt, c'est ce qui explique la qualité du son, parce que là c'est vrai qu'il fallait quand même tendre l'oreille. Bref, Walid Regragui qui a pu compter sur les retours remarqués et remarquables hein, sur le terrain d'Hakim Ziyech, le milieu de Chelsea, et de Nusayr Basraoui, le latéral du Bayern, qui était fâché avec Vahid. Vous avez écrit dans votre journal ce matin un papier sur ces lions de l'Atlas, vous le sentez, vous les sentez bien
coach
aussi
Wade. Coach Wade.
Et là, c'est coach Pedo.
Et oui, là. Non, c'est une équipe. Bah, mettons, on va voir un peu comment si la mayonnaise prend hein, avec Regragui. C'est le meilleur choix. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus parce que c'est quelqu'un qui a déjà prouvé sur le continent africain
sa qualité.
Énorme palmarès en club. Il sort quand même d'une victoire en Ligue des Champions africaine et pas contre n'importe quel. Voilà, avec le WAC et pas contre n'importe quelle équipe. Hein, contre la Harley du Caire. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il perd la finale au tir au but contre Berkane. Le club du président, d'ailleurs, entre parenthèses, du président de la fédération marocaine. Donc, ce qu'il a fait jusqu'à présent sur le banc, il a même gagné un championnat du Qatar, donc il va retourner un peu à la maison aussi, hein, sur un banc.
Il ramène Ziyech et Basraoui, et on a bien vu qu'ils avaient envie.
Non, Basraoui était déjà revenu, simplement, il n'avait pas joué en juin parce qu'il était légèrement blessé. Mais il avait été.
Enfin, là, on a senti l'envie des deux.
Oui, et notamment Basraoui, puisqu'à un moment, il a dit j'ai un petit problème côté gauche, et Basraoui a dit moi, je vais m'y mettre côté gauche, c'est pas un souci. Donc, il a Basraoui côté gauche, Hakimi qui a joué côté droit. Et puis vous avez une attaque qui a bien fonctionné avec Ziyech, Boufal et Nesseri.
Comment il était le petit Achraf hein.
Et Achraf a joué surtout beaucoup devant. Donc beaucoup devant parce que bon, c'est sa spécialité, j'allais dire, le Achraf Hakimi. Avec un Ziyech qui a beaucoup travaillé aussi parce qu'il sait qu'il doit beaucoup à cette équipe du Maroc. Vu tous les problèmes qu'il y a pu avoir entre lui et Vahid Halilhodžić, il sait aussi qu'il a intérêt à être bon. Hein, il n'a pas été très bon lors de la Coupe du Monde 2018. C'est lui qui rate son pénalty, qui élimine le Maroc contre le Bénin en 8e de finale de la CAN en 2019. Hein, alors, quand
oui,
je dis
c'est pour ça que je dis,
sera qualifié,
on les a souvent vus besoin... très beaux. Il y a du long, ça, et Sabrabat, Hakimi, on le disait, Boufal, Ednesiri, Hakim Ziyech, Masraoui.
Mais là, il est resté
il
dans
de la qualité. Bah,
Là, vous avez eu quasiment l'équipe type qui a joué. Hein. Alors, il manquait Aguerd, qui s'est blessé en début de saison avec West Ham, qui devrait revenir à la place de Dari qui joue à Brest d'ailleurs. Donc, vous avez quand même un effectif qui se connaît bien, bien équilibré, et surtout sur le banc, quelqu'un qui a besoin de prouver qu'il est capable d'amener cette équipe du Maroc haute. Et là, pour le coup, tous les signaux sont ouverts parce que tout le monde l'adore et dans le groupe on sent quand même une bonne ambiance.
J'ai vu une petite moue, elle était dubitative ou elle était vous approuviez les noms parce que c'est une belle équipe.
Bah, c'est toujours un peu c'est des techniciens hors pair, c'est des footballeurs extraordinaires et puis souvent
c'est un football chatoyant.
Le résultat, c'est une baudruche qui se dégonfle donc c'est décevant quoi. Et si c'est encore le cas, mais ce que je voulais savoir c'est Ziyech, est-ce qu'il avait manqué au groupe? Est-ce que les joueurs le sont contents de le revoir parce qu'il y avait ce conflit avec Vahid? Coach Wade,
ils sont pas contre le fait qu'il revienne parce que quand vous avez un joueur de très haut niveau, c'est toujours un plus. Maintenant, on sait que c'est une personnalité, je dis pas à part, mais c'est quelqu'un, vous savez, qui a un passé très très lourd, très 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 lourd. Ça fait que c'est une personnalité, un peu spéciale. C'est un grand joueur, hein, ça peut être un grand joueur parce que jusqu'à présent, il l'a pas quand même prouvé avec l'équipe du Maroc. Mais l'équipe du Maroc cette année, je la trouve pas plus forte sur le papier que celle d'il y a 4 ans, pour tout vous dire. Hein.
Ah ouais,
et je vais même vous dire, je pense qu'elle est moins forte que celle d'il y a 4 ans.
Yoro, le mot de la fin sur les Marocains.
Je crois que Hervé a tout résumé. Tout ce que je peux rajouter.
Pas c'est moins forte qu'en 2018. Hein, donc
Moi, je crois qu'elle est moins forte qu'en 2018. Sauf que année, ils ont un bon gardien qui s'appelle Bono, qui peut rassurer derrière. Je crois qu'il est beaucoup plus fort que celui qui était là.
Mais Mounir était très bon avec le Maroc.
Oui, il a été très bon. C'est vrai.
Avec le Maroc. Mais vous aviez des Boussoufa, des Benatia, qui avaient l'expérience de ce haut niveau. Ce qui fait qu'évidemment, c'était un plus, même Diarra quand il jouait côté droite, et vous aviez Amrabat, rappelez-vous, qui avait fait une Coupe du Monde monstrueuse. Maintenant, il y a du potentiel.
Et il y a eu du très bon boulot fait par Vaïd aussi, nous le cachons pas.
Oui, il a fait. Ah non, mais il a fait du bon boulot. Ce qui était plus compliqué, c'est le relationnel interne qui était un peu plus compliqué. Bon, voilà.
C'est souvent le cas avec Vaïd.
Oui. C'est un peu compliqué.
C'est le revers de la médaille, parce que c'est un bon coach.
Ah oui, on peut pas lui enlever. Certainement pas. On qualifie pas autant d'équipes pour des Coupes du Monde sans avoir quelque chose. Et tous les clubs qu'il a menés, rappelons-nous, ils ont eu des résultats.
Match contre le Paraguay demain à Séville pour les Marocains. Et puis dans la Coupe du Monde, un groupe très compliqué, il faut quand même le rappeler, parce que vous allez jouer la Croatie qui est en pleine bourre pour ouvrir les choses. Ensuite, la Belgique. Ouf, c'est compliqué. Ouais. Et vous terminez
mais c'est derby, le dernier Belgique, match. Ne vous inquiétez pas.
Le dernier match, ce sera contre le Canada le 1er décembre. Bon, voilà, c'est un groupe, il faut le rappeler.
Ils ont deux favoris pour le Sénégal. Deux favoris à la victoire finale dans leur poule.
Mais comme dit Yoro, Belgique-Maroc, il y a un côté derby.
C'est ça.
Entre les Belgeo-Marocains, les Néerlando-Marocains.
Allez, messieurs, soyez prêts à chanter.
Ah bah, toujours.
Je vous explique comment ça se passe. Il y a un mec planqué à son bureau, il écoute toute l'émission. Et hop, il a des réactions comme ça, des idées. Il est en liaison avec la très haute direction. Et ça se négocie, il s'appelle David Finzel. Si vous n'avez pas compris, sans lui, il n'y aurait pas de Radio France. Il faudrait aussi Laurent Salerno. Nous, après, on n'est rien.
Non, mais ce sont des hommes de
Mais voilà.
C'est les têtes pensantes de l'émission.
Le Qatar, encore, mais pas pour parler foot cette fois. Mais boycott ou à tout le moins contestation. Quelques voix se sont élevées bien tardivement ces derniers jours pour réclamer un boycott. Il y a aussi pas mal de politiques, mais ça, eux, ils sont là pour surfer et faire le buzz. C'est sans doute un peu tard, non
réclamer ça, c'est de l'opportunisme.
Oui,
ça a été désigné en décembre 2010. Donc, si vous mettez 12 ans à vous rendre compte qu'il fallait boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est que vous vous réveillez un peu tard. Donc, ça, c'est.
Vous
déjà rien. J'ai entendu Vincent Lindon, un acteur que j'apprécie.
Oui, qui ne dit pas que des conneries d'ailleurs.
Bien sûr, parler de boycott, je trouve ça un peu décevant. J'aurais bien voulu qu'il nous en parle bien avant. Donc, je trouve que ça, c'est de l'opportunisme pour être pris, faire du buzz. Voilà. Je pense pas que ce soit très sérieux.
Alors, en tout cas, d'aucuns pensent au contraire qu'y aller, c'est attirer l'attention, donc avoir la possibilité de témoigner, de raconter, de faire de cette compète une chambre d'écho. Parce que c'est vrai que beaucoup disent
ça. C'est ce que dit Amnesty
International. Au moins, là, on en parle. Voilà. J'écoutais notre confrère de Libération, Grégory Schneider, qui disait on nous dit dans les ONG, au moins, on parle du Qatar. Le 18 décembre, c'est la finale. Le 19, tout le monde aura oublié le Qatar. Et ils pourront continuer à faire ce qu'ils veulent avec des gens employés dans de certaines conditions. Encore que là aussi, nous dit-on, ça a progressé. Alors, il y a le port de ce brassard, notamment. Je voudrais avoir rapidement votre avis à chacun. 10 capitaines de grandes sélections européennes, il y en aura peut-être plus. Alors, c'est l'UEFA qui approuve. Hein. La FIFA n'a pas encore forcément dit qu'elle était d'accord. One Love, d'où la chanson. One Love contre toutes. Donc, c'est un bracelet pour signifier, enfin, un brassard. Coloré. Ça n'est pas le drapeau LGBT, mais c'est un brassard arc-en-ciel. Contre toutes les discriminations. Bon, c'est déjà ça. On écoute très rapidement la ministre des Sports française qui s'en contente, Amélie Oudéa-Castéra. C'est déjà ça.
Je salue le port de ce brassard qui ne me semble pas que symbolique, le One Love, qui est une sorte de d'engagement pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, les droits LGBT bien sûr, mais au-delà de ça, contre le racisme, contre les discriminations, contre le sexisme. Et je trouve que en ça, ce sont des signes intéressants et importants.
Ah, cette chanson. D'accord, t'as amateur de
foot. Ça s'en dit plus sur elle et l'impuissance des politiques que sur ce brassard C'est une opération, un coup d'épée dans l'eau, une com, c'est un peu comme
de la part de l'UEFA qui avait refusé que le stade de Munich ou d'Ouest soit éclairé, aux couleurs LGBT. C'est marrant ça. Par contre, pour le Qatar, ça ne repose pas de problème, mais chez eux, ça les ennuyait.
Ça veut dire que les politiques sont
embarrassés. C'est pas déjà ça, non, vous dites non, ça ne servira à rien. Ce qu'il faudrait, c'est quoi?
C'est comme
sur
le
place,
message contre le racisme.
Ne pas hésiter à dire.
Avant chaque match de la Ligue des Champions, il y a un spot avec des figures. Ibrahimovic, Loris, des grands joueurs qui
c'est
nous disent
non au racisme,
Messi, Mbappé qui nous disent non au racisme, bon, ça n'empêche pas. J'ai encore vu des cris de singe à PSG Juventus au Parc des Princes. J'ai vu des bras tendus en hommage au nazisme, visiblement, chez les supporters de la Juve. Donc vous voyez, c'est pas des petits spots. On veut jamais traiter les dossiers vraiment en profondeur. Mais écoutez, le Qatar n'est pas un pays parfait. La Russie n'était
L'Afrique
pas.
L'Afrique du Sud ne l'était pas non plus. Le Brésil, la Russie, quand on a construit des stades, on n'était pas rasé des favelas.
J'ai entendu personne.
Et on va aux États-Unis, qui n'est certainement pas un pays parfait.
Et je suis désolé, quitte à vous choquer, je ne trouve pas que la France soit un pays parfait.
Non.
Donc on a le droit de se poser des questions.
J'ai vu la répression des gilets jaunes en France. La répression des gilets jaunes était bizarre avec 32 personnes éborgnées. Voilà, les droits de l'homme sont aussi questionnés en France. Donc voilà, balayons devant notre porte.
Eh ben, c'est ce absolument. Qu'on essaiera de faire, mais on essaiera aussi de dire ce qu'il faut dire de cette Coupe du Monde et du Qatar. Sur place, on ne s'en privera pas, on ne se privera pas de vous retrouver demain également à la même heure.